RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour, bonjour à tous. C'est l'heure des GG, des grandes gueules. Donc vous savez comment être grande gueule avec nous, comment participer à nos 3 heures de discussion. C'est le 32-16. Bonjour Olivier Truchot.
Bonjour Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
À tes côtés aujourd'hui, monsieur Bruno Poncet, cheminot. Bonjour mon cher Bruno.
Bonjour, oui, je viens un peu, enfin j'essaye de redresser Olivier vers le bon côté, mais c'est pas gagné. Hein.
Le côté obscur de la force,
ouais, le côté lumineux plutôt.
Ah bon.
Ouais, il n'est pas du bon côté, Olivier ?
Ouais, je crois pas. Non.
Bruno Poncet, cheminot.
Je
vois,
ça va où je suis.
Ah, ouais.
Ah bien sûr.
C'est un retard de 20 minutes.
Monsieur Bruno Pomard, ancien policier du RAID et maire de Belleflou dans l'Aude. Bonjour Bruno.
Salut Alain, salut Olivier. Ça va être dur aujourd'hui. Un syndicaliste de Sud et une avocate. Hein. C'est pas gagné. Hein.
Attends, pourquoi l'avocate, c'est pas gagné ?
Sarah Salman, avocate, est avec nous.
Bonjour les GG, bonjour à tous.
Magnifique queue de cheval.
Oui, on pourrait d'ailleurs faire un point capillaire parce que les GG, les auditeurs, les téléspectateurs, vous n'y êtes pas pour rien. J'ai eu beaucoup de critiques dans la rue de gens qui me disaient « j'aime ou j'aime pas ce que vous dites, mais allez-vous coiffer, faites quelque chose ». Autour de moi, on me disait « mais pourquoi tu te coiffes jamais ?»
Mais où, dans la rue ? Dans le 7e ?
Non, dans le 16e, on laisse.
Ah, le 7e, d'accord.
Alors, ce que j'ai fait, l'autre fois, je me suis dit, il y a eu la fois trop, on m'a laissé un message vocal à mon cabinet. Bon, allez-vous coiffer, faites quelque chose. J'ai pris un taxi, je suis allée dans le 16e, ni plus ni moins, chez Royal Extension. Et je me suis dit, je vais aller m'acheter des cheveux.
Placement de produit.
Donc, je me suis acheté. Même pas.
Ouais. Oui. Attends, c'est des faux cheveux, là.
Non, c'est des vrais cheveux d'Indienne.
D'Indienne, en plus. Non, si vous n'êtes pas sur RMC Story. Sarah a une longue chevelure blonde, queue de cheval, et donc c'est une fausse queue de cheval.
C'est un scalp.
Ce sont des vrais cheveux.
C'est pas mal. Et
Bruno Pomard, forcément, ça cartonne, les extensions.
Ça cartonne parce que là, j'ai plus à me coiffer. J'ai la queue de cheval, j'ai plus à me coiffer. Et puis, j'aurais plus les gens qui me disent mais allez-vous coiffer? Mais quoi, allez-vous coiffer? Donc, taxi dans le 16e, Royal Extension.
Il y a une forme de discrimination à mon égard. Et je pense que je vais appeler Sandrine Rousseau parce que c'est lamentable de voir.
Ah oui, pas con. Bonne idée.
Allez, on y va. Premier sujet de discussion. Est-ce que le travail est encore une valeur essentielle dans la vie, dans votre vie? 32-16 pour en parler avec les GG.
RMC, les grandes gueules.
J'aime pas travailler, patron. Tu crois que je te prends pour un con?
Ça pousse, c'est vrai.
Oui, c'est vrai que depuis la crise sanitaire et depuis le Covid, c'est une étude qui est publiée par le Figaro qui nous l'apprend. Un Français sur trois a changé sa conception du travail. Un quart seulement estime que le travail est essentiel dans la vie.
C'est intéressant, c'est de voir que ce chiffre a vraiment évolué en peu de temps. 24% des Français en activité estiment effectivement que le travail est encore très important dans leur vie. Ils étaient 90% en 90. Donc on est vraiment, on a changé totalement de paradigme. Et c'est la Fondation Jean Jaurès qui donne ces chiffres. 64% des 18-24 ans interrogés sont favorables désormais à la semaine des 4 jours. Moduler son temps de travail, c'est le truc qu'on a envie de faire. D'ailleurs, en Belgique, ils ont voté la semaine dernière cette possibilité de moduler le temps de travail et de permettre à des salariés de travailler que 4 jours sur 7. Et c'est vrai qu'il y a deux concepts qu'on entend beaucoup en ce moment. Le concept de la démission silencieuse. Ce sont ceux qui restent au travail, qui font ce pourquoi ils sont payés, ni plus ni moins. Voilà, on n'en fait pas plus. Visiblement, ça touche pas mal les cadres et les emplois tertiaires. Et puis il y a aussi le concept de la grande démission. On en a beaucoup parlé, notamment aux États-Unis, où là, il y a carrément des gens qui ont démissionné de leur travail, ont envie de changer de vie. Alors, est-ce que vous comprenez justement cette société qui dit en fait aujourd'hui le travail n'est plus essentiel dans notre vie, ça devient secondaire.
32-16 pour le dire aux grandes gueules. Bruno ?
Pour moi, ce qui est essentiel, c'est malheureusement d'avoir assez de moyens pour pouvoir se nourrir et puis subvenir aux besoins de sa famille. Mais le travail, pour moi, c'est pas essentiel. Moi, si je pouvais me passer de travail, je serais heureux. Hein. Ah, franchement, enfin, moi, c'est pas le boulot qui me fait rêver tous les matins. Et pourtant, je fais un boulot qui me plaît.
Alors, change de taf.
Je fais que ça. Mais en ce moment, je suis en reconversion, tu vois. Mais moi, ça me, c'est pas ça le sujet. Mais tu vois, c'est de choisir sa vie. Et moi, j'ai pas les moyens, tu vois.
Pour toi, le travail, c'est pas l'essentiel de ta vie, de ton statut.
Non, moi, mon essentiel, c'est d'essayer d'être heureux. Et ça passe pas forcément par le travail. Le problème, c'est que si tu veux vivre et survivre, il faut quand même que tu sois.
Oui, faut que tu rentres de l'argent.
Voilà. Donc, à un moment donné, voilà, le travail devient.
Mais tu comprends les jeunes qui disent, effectivement, aujourd'hui, on veut plus tout donner à notre travail?
Oui. Et en plus, moi, de pouvoir en reparler avec plein, parce que ça me surprend vachement, parce que ça a mis du temps à arriver. Parce que moi, à mon époque, c'était pas ça. À mon époque, c'était tu cherchais une carrière, tu rêvais de certaines choses. Et en parler avec eux, et je comprends parce que Moi, je pense qu'à force d'avoir vu leurs parents se casser les reins dans des boulots qui sont certainement difficiles ou autres, d'avoir vu leurs parents peut-être faire des boulots qui leur plaisaient pas, de revenir du boulot en ayant une sale gueule et disant, ah là, ça me fait chier d'y aller. Mais je me dis que les gamins, ils disent, bah attends, moi, je vais choisir. Alors, c'est un effet pervers, c'est qu'ils choisissent maintenant et malheureusement, quand ils arriveront à 27, 30 ans et qu'ils commenceront à avoir une famille, bah,
en fait,
ils rentreront dans le système.
Tu dis bravo à cette frange de la population aujourd'hui qui a réalisé qu'en fait, on travaille juste pour vivre, on vit pas pour travailler.
Ouais, quoi, voilà. Je me dis qu'à un moment donné, je trouve que c'est quand même mieux d'avoir une population conscientisée, ouais. Une population qui fait ses choix qu'une population qui
subit. Mais Bruno, tu voudrais faire quoi comme travail concrètement? Parce qu'il y a
chanteur de rock, mais tu vois, pouvoir football professionnel, j'ai 50 ans, c'est mort.
Mais pourquoi c'est mort? Mais c'est quoi ce truc de se mettre des barrières?
J'ai pas de talent. Sarah, j'ai pas de talent.
Ah oui, sans talent, c'est sûr, voilà. Que c'est compliqué.
Donc voilà, je fais un peu de radio de temps en temps, tu vois, et puis je travaille à SNCF.
C'est-à-dire que tu veux faire quelque chose sans avoir le talent.
Voilà, mais il y en a d'autres qui le font. Bah toi, tu étais bien au courant, la télé-réalité, c'est un peu ça leur truc. Il faut baser trucs.
Sarah, quoi. Le travail, tiens, toi qui es plutôt dans cette jeune génération.
Je suis pro-travail. Dans ce cas-là, on se prend en main, on ne se victimise pas, on arrête d'être toujours dans cette logique où l'État doit intervenir parce qu'on n'a pas l'ambition. C'est un manque d'ambition. Dans ce cas-là, on se bouge, on se remue et on prend un travail qui nous plaît.
Non, parce que c'est pas forcément le fait de faire un travail qui ne plaît pas, c'est tout simplement de dire que le travail n'est plus le moteur de
notre
vie.
Dans ce cas-là, ça va être très simple, ils vont se foutre à la campagne, ils vont créer leur potager, ils vont faire de la full autonomie, puis on ne demande rien à personne. Mais dans ce cas-là, faudra pas venir pleurer. Moi, mes impôts n'ont pas à payer la médiocrité de ceux qui ne veulent rien foutre. Et ça, c'est une évidence. Je pense que les gens ne font rien. Donc après, je vais encore me faire taper dessus parce que je dis que les gens sont des glandus. Bon, bah, c'est une chose si les gens sont.
C'est pas une généralité en disant ça. Les gens sont des glandus. Sois précis, t'es avocate. Tu devrais avoir des termes vachement précis. Ne dis pas que les gens sont des glandus. Ça veut dire que.
Je dis que certaines personnes qui n'ont pas d'ambition et qui disent je veux 4 jours, après ce sera quoi ?
C'est seulement une question d'ambition.
Moi, je crois pas, c'est philosophique.
Comment ?
C'est philosophique, Sarah. Moi, je suis pas du tout d'accord.
Mais on peut trouver un travail qui t'épanouit. Si t'as un travail que t'as pas envie de faire, franchement, je comprends. Mais dans ce cas-là, tu peux dire je me prends en main, je vais créer mon entreprise, je vais être mon propre patron et je vais faire des choses que j'ai envie de faire.
C'est pas ça. C'est pas ça l'ambition.
Moi, je crois que le travail surtout structure la vie. Quoi qu'on dise, c'est clair. À un moment donné, il faut se donner des objectifs. Et se donner des objectifs, en premier, c'est travailler. D'abord, pour, comme tu l'as dit, Bruno, nourrir sa famille et pouvoir faire des choses, pouvoir partir en vacances, tout simplement. Ça fait partie du job. Si on considère maintenant que les nouvelles générations, effectivement, ont moins cette ambition de travailler 7 jours sur 7, comme faisaient nos ancêtres, hein, effectivement, il y en a qui travaillaient 6 jours sur 7. Mes parents, ils travaillaient 7 jours sur 7. Ils étaient dans le commerce, ils avaient un bar. Bon, mais moi, effectivement, quand mon père m'a dit, ça serait bien que tu reprennes le bar, pourtant il gagnait beaucoup de fric. J'ai dit non, je me barre dans la fonction publique, hein, et je suis rentré comme sportif de haut niveau dans la police. Bon, je ne peux pas dire que dans la police on ne travaillait pas, mais je veux dire, c'était quand même beaucoup plus cool que de travailler dans un commerce comme la restauration et le bar où c'est vraiment difficile.
Donc ça veut dire que mes parents travaillaient toute leur vie.
Pour moi, il n'est pas nécessairement secondaire, mais c'était un choix de vie. Moi, je trouvais que travailler dans la restauration, le bar, j'ai vu mes parents bosser 24
heures. C'est tuer la santé, quoi.
C'est l'enfer, quoi. Ils ont passé leur vie dans un bistrot. Bon, alors certes, j'avais tout ce que je voulais matériellement, mais.
Ça compte beaucoup.
Pour ça que c'est important. Je pense que les nouvelles générations voient la vie autrement. Voilà. Maintenant, on ne peut pas faire, effectivement, des journées à
rien
faire
et à vivre comme des babacoules. Et il y a aussi un concept que j'ai vu émerger, c'est travailler énormément, ne rien dépenser, prendre sa retraite anticipée à 40 ans. Ça a un nom que j'ai oublié.
Ça peut être aussi inquiétant.
Non, ça, à la limite, c'est une solution. C'est-à-dire qu'on ne demande rien à la société, on bosse et ensuite on s'assume. Ça, à la limite, c'est une solution.
Mais tu sais pourquoi ? C'est parce que la société a changé. C'est-à-dire, ce qui est autour de toi, avant, c'était ton travail, tu payais ton loyer, et puis un mois par an, tu prenais tes vacances, si tu veux. Or, aujourd'hui, ce qu'on appelait, tu te souviens, dans les années 70, l'avènement de la société de loisirs ou de distraction ou de consommation. Elle a éclos dans les années 70 et divers. Et là, 90-2000, elle est à son apogée. C'est-à-dire qu'autour de toi, tu as plein de sollicitations, plein de choses. Tu as envie de consommer, tu as envie de faire autre chose.
Le problème, c'est qu'il faut quand même un minimum d'argent.
Et donc, le travail devient secondaire par rapport à ça. Sauf que, effectivement, pour pouvoir consommer, profiter,
c'est ça.
Alors, il faut quand même bosser.
Ou alors, mais je pense que ça va plus loin. Cette nouvelle génération ne sera peut-être plus sur cette consommation un peu excessive, etc. On va peut-être sortir de cette nous est tombé dessus à nos parents et nous parce que c'était tout était arrivé, tout était nouveau et on en a profité. Et peut-être que les nouvelles générations, du fait que effectivement, il faut peut-être être plus sobre dans notre façon de consommer.
Ça, c'est un problème.
Vont peut-être effectivement accepter de moins voyager, de moins consommer, en ayant moins de moyens puisqu'ils travailleront moins, parce qu'effectivement ça va de pair, et peut-être qu'ils trouveront un épanouissement, alors Sarah elle comprend pas, mais épanouissement différent, un épanouissement plutôt, je sais pas, dans les choses qui sont autour de toi et pas forcément vouloir accumuler des biens.
Inversement, Olivier, on a quand même une société d'hyperconsommation, on a des produits sans arrêt qui sortent. Tu prends les trucs, les téléphones et compagnie, toute la journée on fait la pub de ces trucs-là.
On nous pousse à changer de
téléphone. Et pour acheter ça, il faut travailler, il faut gagner du pognon ou bien il faut faire des
papiers. Mais peut-être qu'on va tourner le doigt à
ça. Ça, c'est vrai que c'est un sujet parce que tu vois, moi, des fois, moi, j'habitais dans les quartiers populaires longtemps dans ma vie, encore maintenant, et je vois des fois des gamins qui sont 14-15 ans, qui ont des baskets aux pieds qui valent 150 euros.
Mais c'est ça, et après, c'est ces mêmes gens qui viennent pleurer en disant j'ai pas d'argent, ma mère.
Ouais, je me dis quand les gamins commencent à bosser, ils vont gagner 1003, ils vont se rendre compte que c'est un sixième de leur salaire. Donc, c'est-à-dire que. Et là, tu vas te trouver avec des gens qui, ouais, peut-être qu'ils aiment, enfin, qu'ils ont pas envie de faire ce boulot, mais ils vont se dire, ouais, mais moi, avant, j'avais une vie avec, enfin, j'avais des trucs que je pouvais me payer, enfin, on me payait.
Mais regarde le paradoxe, Bruno. T'as des gens qui n'ont pas d'argent. On nous dit, les Français n'ont pas d'argent. Ils achètent un iPhone 14 à crédit, bah là, ils le trouvent l'argent. Donc, c'est aussi une question de priorité. Oui. Moi, je veux dire, je vais pas pleurer parce que des gens n'ont pas assez pour acheter un iPhone 14 et après, ils viennent dire, j'ai pas assez pour me chauffer, mais arrête d'acheter un iPhone.
Alors, tu parlais de tes parents qui avaient un bistrot, bien un sûr. Bar, un petit bar-resto et qui travaillaient 7/7. Justement, Michael est de Seine-et-Marne, c'est un fidèle des GG, il est restaurateur. Bonjour Michael.
Oui, bonjour à toute l'équipe.
Alors,
oui.
Mon cher Michael, quand vous entendez dire que le travail n'est plus une valeur essentielle aujourd'hui, comment vous réagissez?
Ça me fait sortir de mes gonds, n'est pas essentiel, mais il tombe où l'argent en fait? Le distributeur, on ne va pas taper son code, il y a de l'argent magique qui sort, pour reprendre une expression. C'est-à-dire, même si c'est essentiel, ne serait-ce que pour lui, c'est la nature qui est faite comme ça. Un lion qui ne va pas chasser, il ne mange pas, il ne nourrit pas. Il n'y a qu'en France, on croit que l'argent...
C'est surtout la lionne qui chasse. Je vais vous dire un truc. En fait, c'est une fake news depuis toujours. Le lion n'a jamais chassé, c'est la lionne qui chasse.
Et le lion, il fait quoi?
Le lion, il est peinard. Il a la belle vie.
Le lion, c'est un reproducteur, tout ce qu'il fait.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que le travail, ça reste essentiel. C'est qu'on reprend, on essaye de se prendre pour des Américains, la grande démission. Je l'avais déjà dit une fois dans votre émission. C'est en France, c'est la grande, comment on appelle ça, c'est soit le grand abandon de poste ou la grande rupture conventionnelle. Il y a aucune personne qui démissionne et qui va repartir avec zéro. C'est pas vrai.
Mais Michael, justement,
c'est pas comme ça.
Vous avez combien d'établissements, Michael?
Moi, j'en ai deux. Et pour vous refaire un peu mon parcours de vie, moi, j'ai rien eu. J'ai commencé à travailler depuis l'âge de 16 ans. Mon père était plongeur, ma mère était mère au foyer. On a grandi à 7 dans 20 mètres carrés. C'est que, oui, alors pendant que mes copains allaient en boîte de nuit, moi, je travaillais en plus de l'école. J'ai continué à travailler. On me disait, tu vas sortir. Dans la vie, il faut faire des choix. Mais on peut
vous
pas,
travaillez combien d'heures par jour, par exemple, sur une semaine? Ça fait quoi, alors?
C'est comme tous mes collègues restaurateurs. Hein. Ça fait du 70 heures par semaine.
Mais il y a une méritocratie.
Est-ce que vous êtes heureux au travail?
C'est ce qui marche en France. C'est ça,
est-ce que vous prenez du plaisir à faire ce que vous faites? Ou est-ce que vous avez l'impression d'être un peu aliéné?
Mais non, mais la frustration, elle existera toujours. Mais dans la vie, il ne faut pas se dire que moi, je veux le jalouser. C'est plutôt le côté français. Des fois, il faut rester à sa place. En France, il y a des étapes. Quand je vous parlais d'ascenseur social, ça marche. Si je veux le truc, je vais travailler plus. Je ne vais pas envier quelqu'un. Pour reprendre l'expression de quelqu'un qui disait, quand je vois une belle voiture dans la voiture, dans la rue, je dirais, il faut que je travaille encore plus pour essayer de me l'acheter.
Ah, je me dis la même chose que vous, monsieur.
Je me dis pas, je vais te la prendre.
Pour les chaussures, toi.
Comme dirait un truc.
Allez-y, Michael.
Je me dis pas que dans quelques années, je vais la lui prendre. En France, la méritocratie, ça paye, ça marche. Des fois, il y a ce que je dis, il y a l'ascenseur social. Alors, Madame Salman, c'est pas une attaque. Peut-être vous avez pris l'ascenseur, moi j'ai pris l'escalier de par mes parents, mais ça marche quand même. Et puis
on
voilà,
c'est pas que... comme une attaque.
Non, mais c'est-à-dire, c'est que en France, on peut évoluer, on peut avoir tout ce qu'on veut, mais il faut travailler. Ça n'existe pas. Moi, je vous dis, moi, dans les coins où je suis, voilà, Michael... la SOF, il n'y a que des jeunes. Mais ils n'ont pas d'argent, ils veulent pas travailler.
Ça fait du bien de voir un exemple de méritocratie, moi.
Michael, vous pensez que c'est pour ça qu'on arrive, les restaurateurs ont du mal à trouver de la main-d'œuvre, notamment?
Écoutez, moi, je vois, à l'époque, quand j'ai ouvert, pourtant je suis jeune, j'ai 34 ans, j'ai ouvert, j'avais 24 ans, je voyais des jeunes, j'avais des CV tous les étés. Les jeunes venaient faire, peut-être les parents les poussaient à aller chercher un emploi à côté. Cette année, j'ai eu que dalle en CV. Mais par contre, tous les soirs, ils sont tous dans la rue de la Soif. Ils sont tous en boîte de nuit. Je les vois tous les soirs quand je ferme mon restaurant en train de se bourrer la gueule dans les rues de la Soif des villes où est-ce que je suis. Et après, on dit non, ils ne peuvent pas travailler. Mais il faut faire un choix. C'est comme je vous donne un exemple. Quand on a pleuré les jeunes, oui, ils ont qu'un. Les gens, ils faisaient la queue au Crous pour avoir un repas gratuit. Ils étaient tous en train de patienter dans la file avec des iPhones pour reprendre
les choses. Je comprends ce que dit Michael. C'est-à-dire que très bien l'aspiration de moins travailler, de faire plus d'autres choses à côté, 4 jours. Mais il ne faudrait pas que ce système repose uniquement sur ceux qui travaillent comme des brutes, pour financer justement ceux qui travaillent pas. Et on arrive quand même un peu à un système à deux vitesses où il y a quand même dans ce pays, il y a des gens qui travaillent beaucoup. Et puis il y a quand même certains qui travaillent moins. Et finalement, ceux qui travaillent beaucoup ne sont pas forcément plus avantagés, forcément en salaire, etc. Et en revanche, ceux qui travaillent beaucoup payent beaucoup d'impôts, financent ce système, la gratuité de beaucoup de choses. Voilà. Et c'est vrai que dans le privé, on travaille globalement quand même plus que dans le public, que les restaurateurs quand même travaillent beaucoup plus que la plupart des Français, que les gens qui bossent dans le BTP travaillent quand même beaucoup plus que la plupart des Français. Ils ont des statuts qui sont parfois plus précaires. Donc c'est vrai qu'on est quand même en train de créer une société à plusieurs vitesses où des gens comme Mickaël vont dire à un moment donné, mais attendez, moi je travaille avec une brute, mais finalement, à quoi ça sert?
On est champion d'Europe de l'assistanat, il faut le dire.
Quand
tu as des niveaux de salaire très très bas, comme ça existe malheureusement dans notre pays, bien tu as des gens effectivement qui peuvent se mettre au chômage et puis profiter des aides et faire un peu de blague à côté. Et là, il y en a plusieurs centaines de milliers en France.
Allez-y, il y a des Mickaël qui financent ça.
Allez-y,
bah oui,
évidemment.
Non, mais ce que j'allais dire, c'est que moi, je vais être radical dans ce que je vais dire. Mais quelqu'un qui est célibataire, qui est jeune, qui a moins de 35 ans, il devrait même pas avoir le droit au chômage. Qui est en état de travailler, qui a la force, le chômage, c'est quelque chose de... Vous qui êtes assez plus âgé, à part Madame Salzman autour de la table...
Soyez correct, Mickaël. C'est bien jusqu'à présent. Et là,
ce que je veux dire, c'est que le Pôle emploi était un trait d'union à l'époque, entre une situation où on avait été licencié et le temps de retrouver un autre travail. Aujourd'hui, c'est devenu un mode de financement. Moi, j'ai des copains qui travaillent à l'État pour l'emploi, il y en a qui les appellent quand il y a des
retards. Vous avez raison, en plus, moralement, je me souviens, quand on était au chômage, on avait même un pont de le dire.
Voilà,
quand tu étais jeune au chômage, oui, tu disais, j'ai loupé un truc.
Ah oui,
mais c'est vrai.
Ah ben moi, j'étais même au RMI à 20...
RMI, c'est RSA?
Ouais,
c'était l'ancien RSA.
Parce que j'avais plus de ressources en 98, je crois. Je l'ai eu un mois, heureusement, parce que j'ai trouvé du boulot après. J'avais vraiment plus que honte. En plus, la personne à qui j'ai fait les papiers, c'était une copine à qui j'ai fait ma communion. Donc là, la honte, elle était maximale, mais c'était comme ça.
Qu'est-ce que tu as fait comme boulot avant de rentrer à la SNCF?
J'ai travaillé dans les transports routiers, j'étais surveillant aussi dans un lycée.
Mais tu vois, tu t'es bougé pour trouver un autre travail et tu l'as trouvé.
Non, mais c'est pas le sujet. Moi, je pense.
T'as vu ce qu'il dit, Mickaël? On devrait pas donner le chômage au moins 35 ans. Bon, ça me paraît
radical. Non, moi, j'aime bien, je valide.
Non, mais je trouve que c'est pas une bonne chose.
T'as
va dire aux gens de Camailleux à Roubaix que demain, ils ont pas au chômage, qu'ils ont moins de 35 ans, certains. C'est pas bon.
Parce qu'il y en a pas beaucoup.
Il y en a quand même, j'ai vu, parce que les vendeuses, souvent, les vendeuses d'habits, tu vois.
Vu ce qu'on vend chez Camailleux, je pense que la moyenne.
Non, mais Camailleux, c'est différent. C'est plus âgé.
Tu peux pas. T'as des bassins d'emploi où c'est pas compliqué de retrouver du boulot quand tu perds le train. Mais t'as d'autres bassins d'emploi et Roubaix, c'est un bassin d'emploi.
À condition de savoir faire ou de vouloir faire tout, enfin un peu tout. Parce qu'on le voit aux États-Unis, par exemple, les gens sont capables de changer de métier et de région. Oui. En France, tu dis à un gars, il est dans une entreprise pendant 10 ans, on le voit peut-être de moins en moins, mais tu lui dis de changer de lieu, partir dans le sud, travailler dans une entreprise, le mec te dit non, j'y vais pas, je m'en fous.
En même temps,
on n'a pas la même mentalité.
Je remercie Mickaël d'avoir été avec nous. À bientôt, Mickaël, restaurateur, fidèle des GG. Dans un instant, après Mickaël en Seine-et-Marne, on ira du côté du Vaucluse, retrouver Stéphane, il est sapeur-pompier. Alors justement, quelle valeur donne-t-il au travail aujourd'hui? Est-ce que le travail reste encore essentiel dans la vie, notamment pour la nouvelle génération? 32-16 pour en parler avec les GG, Sarah Salman, Bruno Poncet, Bruno Pommard.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Alors on parle du travail. Le travail, est-ce qu'il est encore essentiel dans la vie? Depuis 2 ans, on voit véritablement comment les mentalités, depuis le Covid, ont changé par rapport au travail. En particulier, l'avènement d'une nouvelle génération pour qui, certes, on comprend qu'il faut travailler pour pouvoir gagner sa vie, mais on veut travailler autrement. Non plus être aliéné au travail, mais que le travail, tu vois, par exemple, ces 18-24 ans qui veulent 4 jours de travail... Et 4-3, quoi, en fait, comme on dit. 3 jours pour pouvoir profiter de ce que tu as gagné. Je suis sûr qu'un jour viendra le temps, comme dans les pays anglo-saxons, où tu demanderas à être payé, certains demanderont à être payé à la semaine ou à la quinzaine.
À l'heure, tu sais. Bon.
Mais déjà, ça existe aussi à la mission.
À la tâche.
Au niveau d'ingénieur, par exemple, tu as des gens de très haut niveau, hein, bac plus, qui font des missions de 6-8 mois. Bon, après, qui arrêtent.
Les livreurs aujourd'hui, ils sont payés à la tâche. Hein.
Mais pourquoi pas?
Alors, on va en parler avec Stéphane. Stéphane, qui est du Vaucluse. Bonjour, Stéphane.
Oui, bonjour.
Bonjour, Stéphane. Alors, est-ce que pour vous, le travail reste une valeur essentielle dans la vie ou pas?
Alors, moi, je suis sapeur-pompier professionnel. Et j'ai toujours vu que par ça, que par les pompiers. Enfin, je voulais faire que ça. Je passais mes journées à travailler, à faire ça. Et au final, maintenant, je me rends compte que, avec la reconnaissance qu'on a, je fais le minimum. Je vais prendre ma garde, je prends mon salaire, et le reste, c'est ma famille, mes enfants et mon temps libre avec ma famille, puisque On n'a aucune reconnaissance, tout le monde s'en fout. On a de la reconnaissance que pour les discours. Voilà, quand il y a des discours Sainte-Barbe, 14 juillet, quand il y a des feux devant les télés, beaucoup de reconnaissance. En dehors, on est des numéros. Si c'est pas nous, ben on prend un pompier volontaire à 9 euros de l'heure, on le met à notre place. Est terminé.
Si on veut donc vous avez, en fait, maintenant, vous avez mis une certaine distance avec votre travail. Vous le faites bien. Vous faites pourquoi vous êtes payé, mais ni plus ni moins, en fait, parce qu'il n'y a pas la reconnaissance derrière.
Voilà. Moi, je fais mon travail. Les heures supplémentaires, ben, on ne peut pas en faire puisqu'on doit les faire en pompier volontaire. Donc, au final, on les récupère en heure de travail ou on doit les faire en tant que pompier volontaire à 9 euros de l'heure. Donc, moi, faire des journées de 12 heures pour 70 euros.
Donc, vous seriez revalorisé au niveau de l'indemnisation, ça aiderait notamment ou pas?
Mais, déjà, si on fait des heures supplémentaires payées à majorer 25%, enfin, le taux horaire habituel, oui. Déjà qu'on fait, moi, je fais 2028 heures par an de travail, payé 1607 heures. Voilà. Donc, du coup, déjà, partant de là, ça fait des années qu'on demande à être payé à heure pour heure.
Ah oui, logique.
Donc, en fait, là, c'est plus une question de revalorisation et de reconnaissance. Donc, ça interroge les managers, les employeurs, quand même. Hein.
Quel état? Oui, mais tout est une question d'argent. Alors, l'État, il n'y a jamais d'argent. Quand on demande, il n'y a jamais d'argent. Jamais d'argent.
Les pompiers, c'est une profession qui est très valorisée.
Stéphane, ça rejoint ce que vous dites, ça rejoint.
Valoriser dans les policiers.
Ça rejoint ce que demandent tous les employés du service public, les infirmiers,
les profs.
C'est un discours que tu entends partout, ça. Et c'est d'une tristesse sans nom, parce que sans les pompiers, sans les infirmiers, sans les profs, ton État ne fonctionne pas et ta société civile, elle est à la rue. Et les pompiers, cette année, on n'a pas arrêté encore de les valoriser parce qu'ils ont été au front, mais pendant tout l'été. Et puis, je pense que ça va continuer l'hiver avec les inondations et tout. Et Macron, le seul truc qu'il leur fait, c'est de venir les voir quand il y avait le feu en Gironde et leur taper sur l'épaule et dire c'est dur ce que vous faites, à bientôt. Quoi. Sauf qu'ils n'ont pas besoin de ça.
C'est quand même, au moins, c'est une reconnaissance.
C'est bien, ouais, mais c'est pas ça
même si
veulent,
Stéphane n'attend pas que ça, c'est quand même une certaine reconnaissance.
Bruno, tu peux le savoir. Enfin, mon Dieu, quand tu fais des choses comme eux, ils ont vécu là, je pense que la tape dans le dos, c'est gentil, mais c'est pas que
mais
ça.
Mais
quoi.
Stéphane, vous ne pourriez pas faire un autre boulot parce qu'il y a beaucoup de pompiers volontaires qui ont un autre boulot.
Ah mais il est pompier.
Moi je suis pompier professionnel.
Professionnel, moi j'avais compris.
Dans le Vaucluse.
Je peux faire du pompier volontaire à côté.
Oui.
Pour arrondir les fins de mois. Mais après voilà, c'est 12 heures de garde pour 70 euros.
Donc, oui, c'est rien.
Ah, oui.
Stéphane, je vous remercie d'avoir été avec nous. Bonne journée. Un petit salut à tous les pompiers.
Ça c'est ce qu'on appelle parce qu'on met, tu sais, un mot sur chaque nouveau phénomène. C'est le quiet quitting, démission silencieuse. On reste au boulot. Mais on n'en fait pas plus parce que finalement, ça ne sert à rien d'en faire plus. On n'est pas reconnu comme
ça. Ça sent un peu une dépression quand même, ça. Si tu réfléchis bien.
Oui,
oui. Ça sent un peu une dépression où à un moment donné, tu es au boulot et tu y vas à reculons. Et moi, j'ai eu, alors, dans ma vie syndicale, j'ai eu à vraiment m'occuper de gens qui allaient au boulot à reculons et leur trouver une porte de sortie pour x, y raisons. Et des fois, des raisons hyper violentes, du harcèlement, des problèmes familiaux, enfin tout. Et là, tu te retrouves face à des gens qui sont dans une espèce de dépression. Ils vont au boulot avec la boule au ventre, ils y vont à reculons. Et là, quand tu vois que c'est un pompier, tu te dis, là, quand même, ça va loin.
Oui.
Je pense que là,
parce qu'a priori, le pompier, c'est un métier de vocation.
Oui. C'est ce qu'il a dit. Il a toujours voulu être pompier toute sa vie.
Donc, quel type choisisse de faire le métier de son rêve et qui est un peu dégoûté ensuite, c'est qu'il y a un problème.
Regarde, moi, je regarde le recrutement de la police nationale actuellement. Il y a eu 20 000 jeunes qui se sont présentés au concours de la police nationale. Il va y en avoir un peu plus de 5 000 de prix entre les internes et les externes. Mais il y a quand même encore cette vocation de rentrer dans le service public. On ne peut pas l'enlever, même si on n'est pas super bien payé. J'entends que c'est quand même une certaine assurance de la fonction
que tu n'as
pas dans le privé.
Oui, ça, c'est
voilà. Mais il y a encore envie chez les jeunes de
il y a le même problème pour les profs, parce que les profs, là, ils ont à peu près 1800-1700 euros en début de carrière. Je me suis renseignée. Un prof, quand il corrige une copie de brevet, il a 75 centimes d'euros. Donc je pense qu'effectivement, il y a des corps de métiers qu'il faut revaloriser, parce que prof, à la base, c'est un métier de vocation, et je trouve que c'est absolument inadmissible de payer des copies 75 centimes. Moi, j'ai été correctrice pendant 3-4 ans dans une prépa privée, j'étais payée 6,50 € par copie, donc c'est quand même beaucoup plus.
C'est 10 fois plus quasiment, quoi.
Voilà, j'en faisais 600 par mois, donc c'était un peu violent. Mais bon,
600 par mois.
Tu fais que ça. Et à la fin, t'as juste le poignet en feu, t'arrives plus à lire ce qu'ils écrivent. Et j'ai mesuré la difficulté de corriger des copies. Enfin, c'est hyper violent.
Mais ce que
Bruno
disait, il y a aussi un autre point, c'est entre ceux que t'as recrutés et ceux qui vont rester jusqu'à la fin, il y a aussi un delta.
Oui,
absolument. Parce que nous, on le voit à SNCF, on le voit dans d'autres métiers. Mais tu vois, alors là, les profs, c'est vraiment le
terminer le métier à vie, en fait.
Non, puis tout le même métier. Ils se rendent compte qu'on leur a vendu du rêve et ils s'en vont.
Je pense que ça aussi, en fait, on a changé de paradigme. C'est-à-dire que tu offres à un jeune, tu dis, rentre à la SNCF ou prof et pendant 40 ans ou 50 ans, je fais la même chose. Et là, je pense que ça dégoûte.
Ah non, c'est fini.
Donc c'est plus du tout vendeur, ça.
On est plus
il faut dire, tu vas être prof à un moment donné, tu vas être, mais après, on va mettre en place des choses de reconversion.
Par exemple,
c'est pas simple. Mais je pense que c'est, au contraire, ça fait fuir.
Et même globalement, d'ailleurs, quel que soit presque le métier, parce qu'aujourd'hui, regarde, on rencontre tous
plein de gens
qui sont à 40, 42 ans,
qui disent
ça fait 20 ans que je le fais, j'ai fait le tour.
Mais avocat, il y a un avocat sur 10 qui
à 40 ans, tu avais ton métier, tu disais c'est cool, j'ai gardé, je continue.
Ouais, quoi, ouais, maintenant, tu dis, mais en fait, je m'emmerde, je fais autre chose.
Et dans votre job, journaliste et tous les techniciens qui sont derrière nous, là
ici,
il y a un turnover important.
Ici, il y a des gens qui sont partis du plan départ, etc. Il y a plein de gens qui ont changé carrément de métier, de vie.
On a connu qui avait fait ça par passion, prendre une caméra, partir sur le terrain.
Et pourtant, c'est plutôt un métier de vocation, journaliste.
On en connaît deux, d'ailleurs, si je me souviens bien. Ils ont ouvert une espèce de ferme potager du côté de la Normandie.
Ah ouais, carrément.
Et puis, il y en a un autre avec, pareil, en couple, ils se sont mis vers l'Ardèche et ils ont fait chambre d'hôte, tu vois.
Ouais,
vraiment changement de vie total, quoi. Nous sommes avec Vincent qui est dans la Marne. Bonjour Vincent.
Salut les GG.
Bonjour Vincent.
Vous faites quoi dans la vie, Vincent?
Moi je fais le métier de mes rêves, c'est une reconversion, je suis sommelier.
Alors, reconversion, vous avez 43 ans, vous êtes reconverti à quel âge?
À 36 ans.
Ah oui, donc première partie de carrière, vous faisiez quoi?
J'étais dans la vente et juste avant de mettre ce coup de pied aux fesses, j'étais dans une boutique de chez SFR, dans une galerie commerciale, avec zéro perspective professionnelle, zéro avenir, un boulot qui était chiant. Et voilà. Puis moi, au lieu de subir, alors je vais effectivement dans le public, il y a les limites du public, mais je vais être un peu plus dur avec le privé. En se bougeant les fesses dans le privé, on peut faire ce qu'on veut. En France, il y a toutes les aides, il y a toutes les solutions pour pouvoir passer d'un métier à un autre. Celui qui passe une expression, qui se fait chier dans son métier, il n'y a rien qui l'empêche.
Il y a plein de reconversions et tout.
Ah oui. Sauf que les jeunes, eux, effectivement, il y a.
Alors, justement, expliquez, parce que vous étiez dans la téléphonie, vente de téléphonie, et vous avez basculé sommelier. 36. Qu'est-ce que vous avez fait comme formation? Donc, il y a 7 ans, vous aviez 36 ans. Comment vous avez fait alors?
Bah déjà moi j'avais la passion du vin, donc je passais mes week-ends à partir à droite à gauche en vadrouille dans les vignes à rencontrer les vignerons.
Comme Olivier Truchot.
et puis de là je suis retourné, il y a une formation notamment en Champagne, c'est à Avize qui est un viticampus qui propose toutes les solutions pour ceux qui veulent aussi bien reprendre une exploitation, ceux qui veulent devenir guide dans une maison de champagne, ceux qui veulent être caviste, enfin il y a vraiment toutes les solutions. Et moi j'ai repris ma formation, de là j'ai passé des diplômes en sommellerie internationale, je suis parti travailler à Los Angeles, là maintenant je suis de retour sur Reims. Mais toutes les portes, enfin je m'éclate. Moi je travaille plus là je travaille plus, le matin je vais bosser, je m'éclate. Alors oui, je bosse des moments où les gens ils bossent pas, je bosse les samedis soirs, je bosse les vendredis soirs, les premiers de l'an, etc. Mais d'un autre côté, au-delà de ça, il y a un cercle vertueux. J'ai monté, je suis auto-entrepreneur à côté, je fais des masterclass sur le champagne. Je rencontre que des gens qui
me font. C'est une passion, c'est plus un travail.
Quel enthousiasme,
Vincent. La question bonus là. Du coup, à 43 ans, vous avez fait votre conversion, vous éclatez, vous avez bougé, vous gagnez combien aujourd'hui?
Là, entre mon boulot et mon auto-entrepreneur, je dois être net, je dois être un petit peu en dessous de 4000 là.
Ah ouais,
et j'étais à 1007 chez SFR.
Ouais, oui. Ah ouais.
Ouais, mais vous bossez.
Franchement, bravo. Hein.
Ah mais je bosse. Ah ben oui, mais
les
gamins maintenant ils veulent tous être influenceurs ou glander sur la console et clair. Faire du Twitch en vidéo pour pouvoir être dispo le samedi soir. Et c'est les premiers à vous jalouser quand ils vous disent ah ouais bah toi t'es parti à Los Angeles, t'es parti à Dubaï, tu t'achètes des guitares. Bah ouais mon pote, mais moi le week-end dernier pendant que tu glandais, ah ben moi je bossais. Enfin je bossais pas, en plus je m'éclatais. Juste je m'éclate quoi.
Bruno, bon, c'est plutôt bien son parcours.
Ah non, mais moi je trouve ça super bien.
Mais ce qui est intéressant, c'est ce sur quoi il insiste. C'est-à-dire, on critique suffisamment notre pays, mais Vincent nous dit, il y a tous les dispositifs qui existent, justement.
Oui.
L'amortisseur, et puis en même temps, ce qui te permet de rebondir avec toutes les formations possibles, imaginables. C'est voilà, faut en avoir conscience.
Non, mais il a raison, Vincent. Son parcours, il est bien, il est même un peu extraordinaire dans le. Mais je pense qu'il faut pas opposer les gens. Moi je pense que si un gamin, un jeune, aujourd'hui, il a envie d'une autre vie, il doit la choisir aussi. Mais en plus, moi, je pense réellement qu'on n'est pas dans le débat. Moi, je pense plutôt que c'est philosophique. Que les jeunes d'aujourd'hui, comme disait tout à l'heure Olivier, ils se sont rendus compte que leurs parents, et comme le parcours de Bruno, par exemple. Et donc, moi, je trouve qu'à un moment donné, c'est bien d'avoir le choix. Et si les gamins.
Non, mais c'est ce qu'il a dit, Vincent. Oui. Il a choisi. Donc, ces jeunes aussi qui critiquent, on peut leur dire, vous pouvez.
Bien sûr.
Vous avez les possibilités de rebondir, de faire autre chose.
Les jeunes, ils critiquent le fait qu'à un moment donné, tu sois aliéné à ton travail et que ton travail ce soit ta raison de vivre. Or, c'est, ouais, eux, ils veulent pas de ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de faire le choix. Et si ton, moi, à un moment donné, je m'étais même dit peut-être qu'un jour, si je trouve un truc à côté qui me plaît, eh ben, je ferai un boulot alimentaire. Et voilà. Et puis à côté, je vivrai mieux. Ouais, ça, je pourrais pas là. Par contre,
Mais il y a beaucoup de jeunes qui font ça, qui prennent un boulot alimentaire, qui se mettent de temps en temps au chômage, qui bossent un peu au black, et puis derrière, ça leur fait de quoi un peu vivre et de faire autre chose.
Vincent, juste le dernier mot. Redonnez l'institut là qui permet la reconversion et de rebondir dans les métiers du vin, entre autres. Dites-nous.
C'est pour Olivier.
Alors, la formation que j'ai faite, c'est à Avize. C'est un petit village de Champagne, et ça s'appelle le Avize Viticampus.
D'accord. Merci Vincent, merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. On va conclure du côté de la Gironde avec Clémence. Bonjour Clémence.
Bonjour.
Surveillante pénitentiaire.
Absolument.
Ah, c'est intéressant.
Vous vous classez dans quelle catégorie aujourd'hui ? Celle de ceux qui en ont ras-le-bol du travail et qui veulent passer à autre chose ? Dites-moi.
Alors, ras-le-bol, c'est un grand mot pour moi. Je suis pas, pour commencer, je suis pas rentrée par vocation dans cette branche-là, mais j'ai appris à aimer profondément le métier que je fais. Il est riche et il est humain. Il demande beaucoup d'implications humaines et j'aimerais aujourd'hui mettre en lumière ce métier qui est victime de clichés, dont on parle peu, mais qui est au demeurant très...
Qui est essentiel.
Tout à fait, tout à fait. Il fait sens et l'utilité est bien présente. Actuellement, les jeunes veulent du sens, effectivement, dans leur métier. Et aujourd'hui, ce métier fait sens. La problématique qui se pose actuellement dans nos métiers, c'est le manque cruel de personnel. C'est-à-dire que on organise des concours, mais 50% se présentent au concours. On ne recrute plus dans nos métiers. On ne recrute plus, et ce qui engendre des problèmes terribles, terribles de d'effectifs. Et on en demande toujours plus à ceux qui sont là. Aujourd'hui, il y a un vrai épuisement de la part de ceux qui sont là. Effectivement, moi, pour moi, le management a une part essentielle dans cette lassitude, parce que effectivement, ceux qui tiennent le coup sont encore là, mais ils ne sont pas valorisés ni récompensés. On en demande toujours plus, toujours plus, toujours plus. Moi, je suis actuellement dans la phase où je pense à me reconvertir, et pourtant Dieu sait que j'aime mon métier, hein, que je fais actuellement.
Vous avez quel âge, Pop?
34 ans.
34 ans. Ah, déjà, il y a 34 ans, vous dites, ça y est, je me vois pas continuer toute ma vie ce métier, quoi.
Non, du tout, du tout. En lien avec, effectivement, le toujours plus, on nous demande toujours plus.
Est-ce que vous avez été revalorisé? Parce que je me souviens, il y a eu un mouvement quand même assez important des surveillants pénitentiaires, un mouvement social. Est-ce qu'on vous avait promis quand même une revalorisation? Est-ce que vous l'avez obtenue?
Alors, très peu, si vous voulez, je suis transparente sur mon salaire. En moyenne, vous voyez, là, je suis dans un service actuellement qui est en manque cruel d'effectifs. Je fais, sur 7 jours, 70 heures supplémentaires. Donc, les fonctionnaires qui ne travaillent pas, ça me fait bondir. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, en moyenne, en salaire, allez, je peux aller jusqu'à 2000 euros par mois au bout de...
Avec les heures sup.
Avec les heures sup.
Alors, Clémence, c'est vous qui aurez conclu notre discussion et on vous comprend dans les GG, dans les grandes gueules.
Encore une fois,
tous les personnels de l'administration pénitentiaire, certains qu'on a pu rencontrer ces derniers jours.
Ils sont nombreux à nous écouter, on les salue. Encore une fois de plus.
Vous êtes passé par la case de prison ou quoi?
Non, on les rencontrera. Ben, peut-être que ça nous aidera si un jour on y va.
Je viendrai te voir.
On a quelques copains. Attends, non, mais sérieusement, qui est l'employeur, là, une fois de plus?
L'État.
L'État qui donne des leçons à tout le monde, et souvent au privé, qui donne souvent des leçons aux chefs d'entreprise, parfois à juste titre. Mais enfin là, quand même.
Un mauvais patron, l'État.
C'est quand même un mauvais patron.
Conclure avec la consultation. Le travail est-il encore essentiel dans votre vie? 60-40, 70-30? Ah non! 54-45.
Toujours assez équilibré.
Pour les 1400, 1500 personnes qui ont écouté la discussion et qui ont voté sur les réseaux sociaux. Dans un instant, on s'en fout pas. Mangez vos morts! L'explication de la députée Danielle Obono, le conseil de la refondation, Emmanuel Macron en col roulé. S'en fout ou on s'en fout pas? À tout de suite.
C'est les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Monsieur Louis, bonjour.
Bonjour, bonjour à vous.
On y va.
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien.
La députée de la République, Danielle Obono, a réagi sur BFM Story, l'émission du PAF, où on écoute la séquence lors de son discours.
Je pense que vous savez utiliser un moteur de recherche et vous saurez avoir l'explication. Et c'est un tweet forme de boutade de salutation du matin, qu'il n'y a pas besoin de plus de commentaires. Je sais que vous adorez faire ça, mais je crois que la situation aujourd'hui en Iran est suffisamment importante et sérieuse pour justement éviter les instrumentalisations politiciennes.
Elle réagissait évidemment à son tweet d'hier où elle parlait de manger vos morts. Voilà, bon, réaction. On s'en fout, on s'en fout pas, Bruno. Bruno Poncet, du coup.
Ah non, on s'en fout pas et ça me rend ouf. Hein. Alors là,
Bruno Poma. Bah,
pareil, ça me rend.
On s'en fout pas.
Bruno Poncet commence.
Il y a un vrai sujet parce que, alors, déjà, première chose, moi j'ai été élevé avec des gitans. Mange tes morts, c'est une expression que j'entends depuis que je suis tout petit. J'en connais plein d'autres aussi qui sont peut-être pires que celle-là. Moi, ce qui me gêne vraiment avec la NUPES depuis quelques temps, c'est que ce qui se passe en Iran, c'est assez grave comme ça. On n'en parle pas assez déjà. Et que depuis Sandrine Rousseau dimanche, elle aujourd'hui, ils attirent la lumière sur leur propre personne avec des expressions, avec des attitudes,
du buzz.
Au lieu de vraiment défendre une cause qui est importante et qu'il faudrait vraiment parler. Et donc, Obono, Rousseau et tous les autres, il faut vraiment qu'à un moment donné, ils arrêtent.
Elle était présente à la manif, Rousseau.
Ça s'est bien vu. Sauf qu'aujourd'hui, c'est le seul truc qu'on parle de la manif, c'est de Rousseau qui se fait siffler. Mais à un moment donné, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a des gens en Iran, il y a des gamins de 20 ans qui se font buter juste parce que c'est des femmes qui retirent leur voile. Donc à un moment donné, moi, je trouve que, et la NUPES encore une fois, alors, pourtant, je devrais soi-disant être avec eux, mais alors, loin s'en faut. Mais vraiment, mais il faudrait qu'ils fassent de la politique, qu'ils arrêtent la communication, qu'ils arrêtent de faire des trucs comme ça. Ils gâchent tout.
Sarah.
Moi, je trouve que c'est parfaitement inadmissible. Elle est élue de la République. Et en plus, ce qui me choque, c'est que je la trouve particulièrement agressive dans l'interview, à répéter monsieur le journaliste en boucle et à ne pas répondre aux questions. C'est-à-dire qu'elle fait une connerie, elle s'enfonce et elle ne donne même pas les explications. Donc moi, je ne souhaite pas être représentée par des personnes qui manquent de respect à la France entière.
Mais elle n'est pas députée.
Bruno.
Pomar. Oui, enfin, je suis d'accord avec mes petits camarades. Hein. C'est clair que...
On n'est pas petits, hein.
Par le talent alors. Non, je trouve ça lamentable. Encore une fois, l'image de nos parlementaires est trahie quand on voit ce type de comportement et surtout ce type de propos quoi, qui n'ont rien à voir. Il faudrait mieux de travailler, comme le disait à l'instant Bruno, sur le fond des dossiers et plutôt que faire de la punchline permanente, du buzz en permanence, comme fait Madame Rousseau. En même temps, ils ont un maître en la matière, c'est Monsieur Mélenchon. Donc,
au moins, il a du talent.
Les enfants,
quoi qu'on en dise.
Ouais, bon, à remettre en question aussi. Mais bref, voilà, tous ces gens-là, si vous voulez, sortent complètement de leur mission de parlementaire. Et moi, en tant qu'élu, ça me gêne d'entendre ces gens-là parler de cette façon.
Vas-y, continue.
Alors, Macron en col roulé.
J'ai oublié celle-là.
Pour le lancement du site internet du Conseil national de la Refondation, pour son discours, le président de la République a arboré lui aussi à son tour un col roulé gris anthracite, cette fois, pour le détail. On s'en fout pas, Sarah, qui est en col roulé aujourd'hui.
On s'en fout, mais j'ai mis le col roulé alors que je suis toujours habillée pareil normalement, donc en mode foutage de gueule, je l'ai mis.
Bruno Pomar.
On s'en fout pas parce que quelque part.
On s'en fout pas. Bruno Poncet.
On s'en fout, mais je pense qu'il est fan de Grande Gueule.
Bruno Pomar.
Non, on s'en fout pas parce que la façon dont t'as fait. Bruno Le Maire, non, c'est un petit polo. la façon dont t'as fait Bruno Le Maire, effectivement, c'est un petit peu infantiliser les gens, quoi, en montant ça, à travers ce dont on parle, l'économie d'énergie, etc. Donc, je trouve que c'est un petit peu dérisoire. Très sincèrement, on n'a pas nécessité d'avoir encore une fois ce type d'exemple, qui plus est venant des plus hautes autorités de l'État.
Et toi, Bruno, tu t'en fous?
Non, moi, je m'en fous, mais je pense qu'il est plutôt fan des grandes gueules, vu que vous avez vu en col roulé, il s'est dit tiens, je vais faire comme eux. Moi, j'ai vu ça comme ça. Un hommage.
Ah, d'accord.
Merci, monsieur le président.
Pas capté le président.
Comme, toujours pareil, monsieur le président de la République, quand vous voulez, face aux Français.
On a tout fait pour essayer de le faire venir pour la campagne présidentielle.
À nos GG.
Alors, semble-t-il, la question s'est posée. Quand même, attends, on le sait, avec un peu de recul. À l'Élysée, la question s'est posée, effectivement, est-ce qu'il voulait faire des choses un peu différentes, devenir dans les grandes gueules, puis finalement, ça ne s'est pas fait. Mais il faut reconnaître qu'il n'a pas fait non plus une campagne très, très présente.
Mais il n'en a pas fait.
Pourtant, il en a des grands fans ici dans les grandes gueules, et il devrait venir.
Ah bon?
Monsieur le Président, puisque en ce moment, vous voulez parler aux Français, vous appelez les Français à vous aider pour refonder la nation. Il faut venir en parler directement dans les GG avec les représentants de la nation.
Et Gérald Darmanin aussi, il faut qu'il vienne.
Mais il viendra, Gérald Darmanin, j'en suis sûr. On continue.
Eh ben, Élysée toujours, la facture de chauffage de 345 000 euros à l'Élysée, une vraie passoire thermique, chauffage au fioul, au pétrole, en gros. On s'en fout pas, Bruno Pomar.
Je m'en fous.
Bon, je m'en fous pas.
Bruno Pomar.
Je m'en fous pas.
Sarah, vas-y.
Il faut préciser que cette facture date de 2021.
Oui, c'est la facture de l'année dernière.
Elle est ressortie en disant justement l'Élysée est une passoire thermique.
Voilà, autre précision, l'Élysée, ça comprend 3 bâtiments, là où est le président de la République, l'hôtel de Marigny, qui est une résidence qui est dépendante de l'Élysée, et un troisième bâtiment de bureau.
Tout à fait.
Voilà, donc c'est 3 bâtiments.
et 1000 personnes qui travaillent.
Ouais.
Total. Non, mais on s'en fout pas. Et moi, c'est quand j'entends ça que j'ai envie de leur répondre par provoque. Je m'en fous de l'écologie. Dans la mesure, appliquez à vous-même des conseils. Ça veut dire que là, c'est serrez-vous la ceinture, faites le nécessaire. Mais vous, nous, on met le chauffage à fond. Et pendant ce temps-là, Non, mais c'est pas un cliché, c'est la réalité. C'est qu'on se fout de notre gueule ouvertement. C'est toujours faites des petits gestes. Mais moi, ça me sort par les yeux, les petits gestes. J'en ferai même pas des petits, des grands. Je ne ferai rien. D'abord que ces personnes montrent.
En fait, tu te comportes comme une enfant, en fait.
Oui. Je me comporte comme le gouvernement.
T'attends que papa et maman se comportent bien pour bien te comporter.
Et il y a un devoir d'exemplarité quand le gouvernement.
Tout à l'heure, tu dénonçais l'infantilisation. Finalement, tu
t'as fait. Et ils ont qu'à faire pareil. Je veux dire, on regarde la facture et ce serait à moi de me mettre à 19 degrés. Non, je mettrai le chauffage à fond et je fais ce que je veux.
C'est un cliché, ça, Sarah. C'est un cliché de dire.
Non,
Bruno.
Je fais ce que je veux, j'ai pas de consigne à recevoir.
Mais non.
Mais qui sont ces gens?
Mais tu as besoin.
Le gouvernement.
Encore jeune, donc tu as besoin d'avoir des conseils.
Arrête de te ramener à la jeunesse, toi. T'es vieux et pourtant, tu vois.
Je suis un vieux con, t'as raison, mais en attendant, c'est important. Moi, je pense que, encore une fois, c'est dérisoire parce que c'est un haut lieu de la République, l'Élysée, qui reçoit beaucoup de personnalités. Tu le disais tout à l'heure, Marigny, ça accueille beaucoup de personnalités. Il y a un rythme de vie qui est nécessaire lorsqu'on est chef de l'État. Voilà,
344.
C'est H24, évidemment. Il y a des services de sécurité qui sont en place. Il y a plus de 1000 personnes qui travaillent.
Et alors, dans les écoles, on enlève le chauffage et toi, ça ne te pose pas
mais
de problème.
La question n'est pas là. C'est encore une fois, c'est dérisoire de taper
là-dessus
pour
doudous.
Mais c'est pas dérisoire, c'est un problème de cohérence.
Non, suppensez.
Là, c'est un discours de vieux con, je te le dis.
Non. C'est un sujet tout à fait sérieux. Et
c'est sérieux.
Et respecte
nos
institutions.
T'as dit qu'on s'en
foutait. Mais non. Tu remets en question les institutions en parlant de ça.
Alors, Bruno Poncet.
Après, au-delà de l'exemplarité, je me dis qu'ils auraient pu mettre quand même un peu de rond dans les travaux pour un peu isoler tout ça, quoi, parce que c'est un minimum. Sachant, je crois que Madame Macron avait fait des travaux un peu d'embellissement, elle a peut-être fait des travaux d'isolement. Après, il y a un sujet quand même aussi d'exemplarité, mais le sujet, c'est que effectivement, c'est des bâtiments. Mais moi, je trouve que la République a trop de bâtiments à entretenir et
ça,
que les ordres de la République. Moi, j'étais dans le bureau d'Edouard Philippe, qui était Premier ministre. J'ai regardé le truc comme ça au plafond. Il y avait des espèces de tapisseries dégueulasses au pied, au sol, partout, des trucs vieillots, tout moche. Et tu te dis, mais franchement, enfin, deux bureaux IKEA, c'était vachement bien, quoi. C'était
mais suffisant. Non, mais
pour reconnaître que c'est le problème, c'est que ceux qui nous gouvernent travaille dans des bâtiments, dans des vieux bâtiments,
dans
des palais, des hôtels particuliers, ils sont magnifiques,
mais qui sont
des passoires thermiques, qui
on
sont
d'accord.
Alors on fait des travaux dans ce cas-là.
On a eu la chance avec Alain d'aller à l'Élysée, à l'époque, pour rencontrer de Chirac, mais la dernière fois c'était pour rencontrer le conseiller de Hollande, puisqu'on voulait faire venir Hollande dans les grandes gueules. Comme quoi, on a dû.
Et vous avez réussi?
Peut-être que le prochain on y arrivera, mais et quand tu vas à l'Élysée? Pas le ouais. Parce que là on avait été dans les coulisses,
effectivement, le palais de l'Élysée,
en tant que journaliste, on avait
1720
journaliste, tu peux aller dans la salle des fêtes, etc., ça on l'avait fait, mais quand tu vas dans les coulisses, dans les bureaux, c'est exigu, c'est vieux, c'est pas où sont les prises,
les plages en bois,
etc.,
en fait
c'est superbe,
c'est pas fonctionnel,
c'est vieux,
donc tu leur demandes de faire des économies dans des lieux qui sont pas fonctionnels.
Merci Louis.
Mais comme l'a dit Bruno, on peut investir pour faire des
Non, tu peux pas, c'est un lieu
d'œuvre
d'art.
Dans un instant,
faut mieux raser, quoi.
Ces villes qui décident de boycotter la Coupe du Monde en ne mettant pas d'écran sur leur place, Strasbourg, Lille, Bordeaux, Marseille et maintenant Paris. Ça. Est-ce que vous comprenez cette décision? 32-16 pour en parler avec les GG.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.